Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Au carrefour des continents, la Turquie est un conte. Byzance, Constantinople, Anatolie, Bosphore. Ces noms soyeux sont puissants, ils ont la force d'un aimant. Car dans les ruelles d'Istanbul, comme en plein cœur des terres, le magnétisme du quatrième pôle touristique mondial est clair. Ici, tout est fait avec passion. Le football, en tout cas, ne sera pas contradicteur, car en Turquie, les enthousiastes sont fanatiques, les cortèges sont des armées, et les théâtres, des volcans, qui grondent depuis trop longtemps. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, sixième épisode de retour aujourd'hui, et on a la chance de discuter d'une des sélections les plus fascinantes du tournoi, la Turquie à l'Euro 2024. Bon, déjà la première chose à dire, c'est qu'elle a 2-3 trucs à se faire pardonner. Les derniers tournois ont été assez décevants, dans l'ensemble, sixième participation à un Euro pour la Turquie, une demi-finale en 2008, loin d'être déshonorant, mais les deux derniers, et surtout, l'Euro 2020/2021, où la Turquie devait être une des sensations du tournoi, mais termine à la dernière place de son groupe, 3 défaites en 3 matchs et 3 nettes défaites contre l'Italie en ouverture 3-0, contre le Pays de Galles 2-0, contre la Suisse 3-1, un seul but marqué, 7 encaissés. Ouais, cette Turquie avait été, il n'y a pas d'autre mot, atroce. Ces gars-là ont des choses à se faire pardonner cet été. Ressemble à une belle opportunité. La Turquie s'est qualifiée avec brio, première de son groupe, devant la Croatie, que la Turquie a battue en Croatie il y a quelques mois. Bon, derrière, en novembre 2023, ils battent l'Allemagne en amicale 3-2 à Berlin, un succès qui a eu un vrai retentissement. Mais petite inquiétude au dernier rassemblement, vraie inquiétude, 2 défaites successives contre la Hongrie et surtout contre l'Autriche, 6-1. Celle-là, elle a fait mal. Quel est le vrai niveau de cette équipe ? Est-ce qu'ils vont encore une fois être le flop de la compétition, faire un top tournoi? Franchement, tout est envisageable avec cette Turquie. Et la première chose qui est véritablement fascinante, cette Turquie 2024, cette Turquie de Vincenzo Montella, c'est vraiment la Turquie de la nouvelle génération. C'est la deuxième équipe qui va être la plus jeune du tournoi, juste derrière l'Ukraine, dont on a parlé il y a quelques semaines. Et peut-être que tout le paradoxe est là. Deux des plus gros joyaux du football turc, deux des visages de cette sélection, Arda Güler du Real Madrid, Kenan Yildiz de la Juve, qui ont respectivement 19 et 18 ans, à eux deux cumulés, c'est 11 petites capes avec la Turquie. Ils pourraient être deux des révélations absolues de l'Euro. Alors, on va commencer par Arda Güler. Généralement, Montella joue quasiment tout le temps depuis qu'il est arrivé dans un 4-2-3-1. Donc, s'il devait avoir une place en tant que titulaire, c'est pas forcément garanti, mais ce serait en tant que numéro 10. Bien sûr, transfert sensation du Real Madrid l'été dernier, mais il a joué que 166 petites minutes, toutes compétitions confondues, sous la tunique merengue. Est-ce que tu peux vraiment lui donner le rôle de 10 titulaire à l'Euro ? Franchement, le truc, c'est que sur les moments où il joue, c'est très très intéressant. On l'a vu l'autre jour, encore une fois, contre la Real Sociedad. Premier match, première titularisation de Güler en Liga. Bon, bah, il finit homme du match, marque un but. Contre l'Autriche, malgré la large défaite turque, franchement, lui, quelques très très belles séquences également. Ce qui me plaît avec Arda Güler, c'est qu'il a pas froid aux yeux. La qualité technique, ok, celle-là, elle est évidente. Celle-là, on la voit depuis un moment. Mais franchement, dans tout ce que je vois, les prises de décision, même le langage corporel, je trouve beaucoup de personnalité et beaucoup de caractère chez ce jeune gars. Donc, moi, je suis totalement dans le train Arda Güler. Je pense que même saison prochaine au Real, avec sans doute la non-prolongation de Luka Modric. Modric, c'était environ 2000 minutes cette saison en sortie de banc la plupart du temps. Ouais, Güler pourrait prendre, allez, 1000, peut-être 1500 de ces minutes-là, et poursuivre sa progression, un gros euro pourrait aussi jouer dans cette trajectoire. Donc voilà, l'histoire Arda Güler à l'euro, fascinante, je trouve. Et Kenan Yildiz, alors pour l'instant, on l'a mis à gauche, ça pourrait être en pointe. Le secteur offensif de Vincenzo Montella demande encore à être dessiné, éclairci, mais bien sûr, je vais vous parler de tout le monde. Kenan Yildiz de la Juve, 18 ans seulement, mais il a joué les 20 derniers matchs de la Juve. Hein, pas toujours en tant que titulaire, parfois des courtes entrées, sorties de banc, etc. Et il n'a pas forcément été exceptionnel sur ces 20 matchs. En même temps, la Juve d'Allegri, pour un jeune offensif créatif, c'est pas forcément le contexte d'épanouissement optimal. Et pourtant, bon, même là, on l'a quand même vu faire à certaines reprises 2-3 trucs sympas. Avec la Turquie, il a pas mal joué pour le coup. Et il est le buteur du 2-1 contre l'Allemagne, cette frappe-là. Voilà, Güler, Kenanidis, 19 et 18 ans, 11 caps cumulés à eux deux. Le talent est là, on l'a vu que par bribes pour l'instant, mais bon, c'est aussi deux gars qui jouent au Real et à la Juve, on peut pas s'attendre à avoir 30 titularisations par saison à leur âge. Mais ouais, il y a vraiment un monde où les deux explosent à l'Euro. Juste ça rend cette équipe passionnante à suivre. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter à chaque épisode, mais ces deux gars, si demain je fais ma vidéo 20 joueurs à suivre à l'Euro, je pense que c'est deux gars que je mets aussi dans le top 20. Elle commence à être longue cette liste. Mais donc voilà, on a parlé de Kenan Yildiz et d'Arda Güler. Ah, il y a un autre joueur qui m'intéresse bien, il est un petit peu plus âgé, 24 ans, le latéral du Fener, Ferdi Kadıoğlu. 20 millions d'euros sur Transfermarkt, c'est le joueur le plus valuable du championnat turc, à égalité avec Sébastien Szymański dont on a parlé hier, épisode polonais. Mais ouais, super super latéral, il peut jouer à droite comme à gauche. C'est hyper important pour la Turquie parce qu'il n'y a pas de super option sur cette ligne défensive pour les Turcs. Sur les flancs, Cenk Özkaçar, XOL, c'est un peu une catastrophe. On l'a vu en qualif contre l'Arménie. Le match amical contre l'Autriche aussi, c'est vraiment pas distingué. Et à droite, Zeki Çelik, c'est pas fou non plus. Faudrait cloner Kadıoğlu. Et je pense que Montella passerait de meilleure nuit. Kadıoğlu est option numéro 1 à droite comme à gauche. Donc est-ce que ce sera Kadıoğlu à droite et Özkaçar à gauche? Ça a pas mal ressemblé à ça récemment. Au Fener, il joue pas mal en tant que latéral gauche la plupart du temps. Mais il est droitier. Avec la Turquie, il a joué un petit peu plus à droite. Je sais pas, mais c'est un joueur très très intéressant. Aussi à suivre, un peu plus âgé que les autres. Mais dans cette nouvelle génération turque, joueur qu'on n'a pas du tout vu au dernier Euro, par exemple, gardons un œil sur Kadıoğlu. Bon, on a parlé de tous ces gars-là, on n'a pas parlé peut-être de la star de cette sélection, bien sûr, vous l'avez, à 30 ans, il est sans doute au pic de sa carrière, il vit sans doute son prime, parce que depuis deux saisons à l'Inter, Hakan Çalhanoğlu, dans un rôle un petit peu plus de milieu reculé, et ça va être beaucoup mieux qu'au dernier Euro, où sous Şenol Güneş, il était généralement ailier gauche, sur deux des trois matchs des phases de groupe, ailier gauche, bon, ça va pas du tout. Çalhanoğlu, maintenant, dans une base, un tandem de l'entrejeu avec la Turquie, c'est très très bien, et avec l'Inter, il est merveilleux. Sur les deux dernières saisons, Çalhanoğlu, c'est 6600 minutes cumulées, il a éclaboussé la Serie A de son talent. Cette saison, c'est un des meilleurs 6 du monde. En vrai, aujourd'hui, est-ce que tu mets Çalhanoğlu en dessous des 3, 4, allez, 5 maximum meilleurs 6 du monde? Clairement pas. La saison dernière, il joue un rôle absolument vital dans la finale de Ligue des Champions de l'Inter. Aussi, je dirais top 2 ou top 3 des meilleurs tireurs de pénalty du monde. C'est le capitaine de la Turquie. Ça a bien changé, comme on dit, depuis le dernier Euro. Sur ce tandem-là de l'entrejeu, Çalhanoğlu, c'est top. Le problème, ok, on commence à arriver sur les problèmes. Le problème, c'est que son partenaire, et j'étais très très content de présenter cet épisode turc où j'allais parler de ce duo Çalhanoğlu avec İsmail Yüksek, qui font peut-être la meilleure, une des toutes toutes meilleures paires de la compétition, dans les 3-4 meilleurs entrejeux à deux de la compétition. À 25 ans, c'est un pilier du Fener, il a joué 49 matchs cette saison, ses chiffres défensifs sur FBRF, bon, vous voyez, il est top, top niveau. Et c'est un pilier de la Turquie absolument indispensable, il a fait de gros matchs en qualif, notamment contre la Croatie, la victoire 1-0 en Croatie, voilà. Mais vous le voyez, il y a un petit problème. Ouais, ce petit plus-là, il s'est blessé ce week-end, et c'est une grave blessure. C'est rupture des ligaments de la cheville, sa saison en club est déjà terminée, ça parle de 4 à 6 semaines d'absence. Sur Transfermarkt, il dit un retour au 11 juin, donc c'est quelques heures à peine, quelques jours à peine avant le début, le match d'ouverture de l'Euro. Est-ce que tu peux vraiment amener à l'Euro, et encore plus, mettre dans ton 11, sur ce tandem de l'entrejeu, un milieu défensif qui a manqué les 6 dernières semaines de compétition, qui se remet d'une blessure à la cheville? C'est vraiment dommage, parce que ce tandem-là, il était génial, ça faisait une superbe, superbe base, superbe ossature pour la Turquie, et il était utile à la pression aussi. Cette Turquie de Vincenzo Montella, elle est aussi intéressante, pas que parce que c'est une Turquie next-gen avec des petits joueurs sympas, aussi parce que collectivement, elle essaie de mettre beaucoup d'intensité, d'efforts, presser, aller chercher l'adversaire, et Yüksek était totalement là-dedans. Donc c'est vraiment vraiment dommage de le perdre, et je vois pas forcément par qui tu le remplaces. Ok, il y a Salih Özcan, c'est pas un titulaire incontestable à Dortmund, c'est 1700 minutes cette saison, par exemple Yüksek il était à 3600, ok, avec le Fener. Özcan c'est 1700, Avec la Turquie, ses derniers matchs sont pas extraordinaires. Contre l'Autriche notamment, il s'est pas mis en évidence. C'est pas une excellente option. Ah, il y a un joueur que j'aime bien sur le papier, bien sûr, Kökçü de Benfica, qui était extraordinaire au Feyenoord la saison passée. Benfica l'a acheté 25 millions été dernier. C'est la troisième recrue la plus chère de leur histoire, derrière Enzo Fernandez et Darwin Núñez, qu'ils avaient acheté bien cher, hein, 35-45. Kökçü, c'est 25 plus bonus. Alors, c'est compliqué. En fait, il y a quelques semaines, deux mois si je me souviens bien, il a publiquement critiqué son coach, Roger Schmidt, dans la presse néerlandaise, en disant qu'il était mal utilisé, beaucoup trop bas, que lui voulait être plus haut. Bon, là, ça nous met déjà sur la piste. Alors déjà, ça a eu des incidences un petit peu sur son temps de jeu récent avec Benfica, même si maintenant, il a retrouvé le 11. Mais ça nous met un petit peu sur la piste qu'il n'est pas fait pour ça. Lui, il se voit vraiment comme un milieu avancé. C'est vrai qu'au Feyenoord, il avait des stats extraordinaires. C'était un vrai joueur de dernier tiers, créatif. Lui, se voit pas forcément là-dessus. À la rigueur, c'est plus une option pour ce rôle de milieu avancé, pas vraiment pour mettre aux côtés d'Akan Çalhanoğlu. Donc, ouais, pas de superbes options pour remplacer Yüksek, de ce qu'on voit pour l'instant. C'est un petit peu inquiétant pour la Turquie. Il y a de bonnes options par contre sur le secteur offensif. İrfan Can Kavecci, c'est généralement l'ailier droit, et au Fener, beaucoup de joueurs du Fener qui fait une bonne saison. Il est à 18 buts et 12 passes D toutes compétitions confondues, c'est vraiment pas mal. Et j'aime beaucoup aussi, alors là c'est côté Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu, généralement dans un rôle d'ailier gauche qui pourrait du coup pousser Yildiz à être avant-centre. Ça, c'était le quatuor offensif qui était aligné contre l'Autriche, donc ça a pas super bien marché. Est-ce que Vincenzo Montella veut refaire ça? Mais pour moi, c'est peut-être ce qui permettrait d'aligner tes 4 meilleurs joueurs offensifs. Kerem, donc c'est un petit ailier de 25 ans, très créatif, 1m73, petit gabarit, mais super technique, vif, 15 buts toutes compétitions confondues cette saison en club, capable de petit gris-gris en pleine surface pour s'ouvrir des positions de tir. Je pense qu'il part plutôt pour être titulaire sur l'aile gauche. Ils disent peut-être que ça le pousserait soit sur le banc, soit en pointe. Cette question n'est pas encore résolue en Turquie et c'est une des questions fascinantes de cette équipe. Et après, on va venir aux choses qui fâchent un petit peu plus. Le secteur défensif, il y a une très bonne option. En défense centrale, Abdoulkerim Bardakjé. C'est un peu un late bloomer. Là, il arrive à 29-30 ans et il s'est imposé comme étant le meilleur central de la sélection. Sur ces 6 matchs, donc 5 victoires, 1 nul. Les 4 rencontres, les dernières où il n'était pas là à cause d'une petite blessure, 1 nul, 3 défaites, dont l'humiliation l'autre jour contre l'Autriche. Il a un bon jeu long aussi pour un défenseur central assez classique, au-delà de ses qualités de stopper, on l'a vu l'autre jour, son ouverture pour Ferdi Kadıoğlu contre l'Allemagne, pas mal. S'il n'est pas là, ça devient très très compliqué sur les 5 joueurs défensifs. Bon, le gardien de Çaker, c'est pas ouf, Kadıoğlu c'est top, Bardakjé c'est pas mal, mais le reste c'est vraiment pas rassurant. Si les deux manquent à l'appel, et c'est aussi ça un petit peu l'histoire de cette défaite humiliante contre l'Autriche, aucun des deux, Bardakjé et Kadıoğlu, n'étaient là. Ils sont tous les deux absolument essentiels, vitaux. Et ouais, cette Turquie repose aussi sur le fait d'avoir pas trop de soucis de blessures supplémentaires, avec déjà la perte de Yüksek, ça pourrait devenir un petit peu compliqué. Parmi les petites pépites turques qui pourraient avoir un rôle intéressant, il y a le petit Can Uzun, 18 ans, milieu offensif de Nuremberg en seconde division allemande. Il a 15 buts en 28 match de D2 allemande, un petit talent, peut-être des minutes pour lui, et Semih Kılıçsoy, alors lui il n'a pas encore été appelé, à 18 ans, il est devenu là très récemment la nouvelle pointe de Beşiktaş, en gros depuis quasiment 2024, début de l'année civile 2024, il a planté 11 buts en 4 mois de compétition, 2 matchs, 2 buts avec les U21 turcs, pour l'instant pas encore de cap pour lui, mais ça pourrait être une petite surprise, et sinon parmi quelques autres joueurs qu'on connaît, bon il y a toujours Yusuf Yazıcı, quarantaine de cap déjà, il devrait faire partie du voyage, les autres qu'on connaît, Demiral, Merih Demiral, qui est désormais joue en Arabie Saoudite du côté d'Al Ahly, il est parti jeune à 26 ans, Ozan Kabak aussi, c'est pas hyper rassurant, c'est pas très très fort derrière. Vincenzo Montella en tant qu'entraîneur, assez intéressant, on peut en dire 2-3 mots, 49 ans, relativement jeune, il est arrivé en septembre 2023, il y a pas longtemps, il a pris les rênes après un match nul très très décevant contre l'Arménie qui avait coûté la peau de Stefan Kuntz. Il connaît bien le football turc, il a entraîné pendant 2 ans avant ça, il a entraîné pendant 2 ans à Adana Demirspor, un club qui est historiquement un club de seconde division et qui l'a amené sur sa deuxième saison, qui l'a amené à la 4ème place du championnat derrière les 3 gros d'Istanbul. Donc une belle performance, il prend les rênes des A 2-3 mois plus tard et son premier rassemblement c'est un rêve, la victoire 1-0 en Croatie, hyper hyper importante, et 4 jours plus tard ils explosent la Lettonie 4-0. Il a un mandat jusqu'en 2026 j'imagine, avec objectif Coupe du Monde. Voilà, tout un projet autour de cette jeune génération turque, et depuis qu'il est arrivé il y a une base qui a été posée très claire, le 4-2-3-1, sans avoir parfaitement trouvé les titulaires, mais le 4-2-3-1 ça c'est assez net, et ça presse. assez moderne dans l'approche. On l'a vu contre l'Allemagne, gros morceau, contre l'Allemagne, en Allemagne, ça presse. On l'a vu contre la Croatie, beaucoup de séquences de pressing haut. Que ce soit par de la modernité tactique, mais aussi simplement le tempérament du gars, ça me semble mieux matché à la Turquie que Stefan Kuntz. Pas pour être dans un cliché, mais la Turquie, elle joue, tu regardes toutes les séquences, elle joue avec énormément, énormément de passion. C'est intensité sur les phases de pression, mais même les réactions, les célébrations. Le troisième but, 3-0 contre la Lettonie, un but qui est marqué à quasiment la 90e minute. Le banc explose, le langage corporel est toujours à 3000. Le thermomètre émotionnel de la Turquie, pour moi, il est systématiquement dans le rouge. Ça peut coûter des choses sur le secteur défensif, où joue aussi une équipe qui est régulièrement un peu en panique. Mais sinon, à niveau mentalité, pour mettre de l'énergie, presser fort, je pense que Montella est plus au diapason mental de cette équipe. Pour l'instant, ça montre des choses assez intéressantes. Regardez la réaction de Cheng Tosun après une occasion ratée à 4-0 dans le temps additionnel. Une chose est sûre, ils vont pas arriver à l'Euro avec un manque d'envie. Mais j'aime bien cette équipe. J'adore cette équipe même. C'est clairement, ne serait-ce que pour toutes les jeunes pépites, les joueurs intéressants qu'il y a, c'est clairement une des équipes à suivre de l'Euro. Et aussi, j'aime bien ce groupe. Avec la Géorgie, dont on a parlé dans le premier épisode, que je trouvais fascinante, avec le Portugal et avec la République tchèque, c'est un groupe assez homogène. Pour moi, tous les matchs vont être absolument passionnants. Donc Géorgie, c'est 18 juin à 18h, c'est le premier, c'est à Dortmund. Portugal, c'est aussi à Dortmund 4 jours plus tard. La République tchèque, c'est à Hambourg. J'imagine en plus sur les matchs de la sélection turque en Allemagne, avec la grosse communauté turque en Allemagne, il va y avoir une ambiance démentielle. Ils vont avoir la sensation sans doute de jouer ces trois matchs à domicile. Et il y a pas mal de joueurs de double culture en plus dans cette équipe. Hakan Çalhanoğlu est né en Allemagne, Kenan Yildiz aussi, Salih Özcan, Can Ayhan, dont on n'a pas parlé. Ouais, ça va être très différent d'à quoi avait ressemblé l'ambiance sur les matchs de l'Euro 2021, c'est pas une excuse, mais forcément, tu commences par le stade olympique à Rome contre l'Italie, c'est pas tout à fait le même délire, et après les deux matchs suivants, ils avaient été à Bakou en Azerbaïdjan. On se souvient aussi que l'Euro 2021, c'était des stades qui, à part quelques matchs en Hongrie et la toute fin de tournoi à Wembley, avec les restrictions Covid, c'était des stades qui étaient quasiment vides. Le stade olympique, pour le match d'ouverture de l'Euro avec l'Italie, c'est 12 900 personnes seulement. Ça a sonné assez creux, alors que là, franchement, sur les matchs de la Turquie, ne serait-ce que pour l'ambiance qu'il va y avoir en tribune, ouais, je pense que ça va valoir le coup d'œil. Et bon, ils sont plutôt favoris pour la qualif aussi. Sur leur match d'ouverture, ils sont cotés à 1,72 contre la Géorgie qui est à 4,30. Attention à ce match, attention à la Géorgie, on en a parlé dans le premier épisode. Mais bon, quand on pose la question qui atteindra les huitièmes de finale, c'est pour l'instant, de toutes les sélections qu'on a évoquées, c'est pour l'instant la mieux cotée. Ils sont là à 1,30. La Turquie est dans une bonne position, pourrait faire un beau parcours. La phase de qualif a été intéressante. Il y a cette nette défaite contre l'Autriche 6-1 qui fait mal. On a parlé d'à quel point le secteur défensif était remanié quand tu joues un match sans Bardakçe, sans Kadıoğlu. Tout de suite, c'est plus complexe, mais c'est une équipe intéressante. L'intensité émotionnelle de cette équipe, Montella qui apporte des principes modernes, qui fait une équipe collectivement qui presse, qui est agressive, toute cette jeune génération-là, beaucoup de raisons de suivre la Turquie, comme je dis, pour moi, une des équipes les plus fascinantes de l'Euro. On verra, il faut qu'ils se rattrapent aussi, ils n'ont pas le droit deux fois de suite à l'erreur, après le dernier tournoi qui était catastrophique, où déjà on était là un petit peu allé hyper, équipe tendance, etc., c'était atroce. Donc ça aussi, pour moi, ça met encore un petit peu plus de pression, c'est sympa. Ouais, les matchs de la Turquie, je pense, sont vraiment à voir. Merci à la page Joueur Turc sur Twitter qui m'a bien aidé pour faire cet épisode, qui vit la hype Arda Güler en ce moment avec beaucoup d'intensité, mais qui parle pas que de ça. Par exemple, on apprend notamment que Ferdi Kadıoğlu, dont on parle là, le Bayer Leverkusen, aurait pris des renseignements, peut-être un départ de Grimaldo, Frimpong cet été, j'espère pas. Mais ouais, Kadıoğlu aussi va être sur pas mal de tablettes, c'est juste une équipe très intéressante. Vous avez tout ce type de renseignements sur la page Joueur Turc. Merci à lui. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, les amis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Rendez-vous très vite pour le 7e épisode de retour. À bientôt. Bisous.